Alors, à partir du moment où il y a la rupture entre l'islam, le judaïsme et le christianisme, les juifs et les chrétiens sont écartés par le Coran de la descendance d'Abraham. Il y a un verset très, très important là, je vous le lis. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Pour nous, ce n'est pas possible. Hein. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était monothéiste pur et musulman. Monothéiste pur, l'unicité. Hein. Et puis le verset ajoute, il n'était point du nombre des associateurs. Vous vous rappelez ce matin, quand je vous ai parlé de l'associationnisme, donc le péché que le Coran accuse les chrétiens d'avoir commis. Donc Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était monothéiste pur et musulman, il n'était point du nombre des associateurs. Sourate 3, verset 67. À partir de ce moment-là, Mahomet ne se reconnaît plus dans l'héritage et la descendance d'Isaac, mais c'est donc Ismaël. Et puis au même moment, lorsqu'on rétablit l'ordre chronologique, comme certains savants l'ont fait dans l'islam, intervient aussi un autre verset qui est terrible. Dieu dit aux musulmans, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, ils sont amis entre eux, et si vous les prenez pour amis, vous deviendrez comme eux, vous tomberez dans l'erreur. C'est sourate 5, verset 51. Alors qu'auparavant, à la période de la Mecque, quand Mahomet était encore faible, qu'il était rejeté par ses compatriotes, les versets concernant les chrétiens étaient plutôt condescendants. Il y a un verset qui, où on voit, je ne l'ai pas là, excusez-moi, je pense que je le retrouverai. Un verset où Dieu rend hommage à l'humilité des moines. Oui. Et Dieu dit aux musulmans, vous trouverez que parmi les non-musulmans, ceux qui sont les plus proches de vous sont les chrétiens. Mais après, ça change. À partir de Médine, à partir du moment où l'islam s'organise, où l'islam se répand, où il acquiert un grand prestige, eh bien, le ton du Coran change et se fait l'écho donc de ce changement et de la rupture qui intervient. Alors, je vais vous expliquer, en fait, les griefs que le Coran fait aux chrétiens et aux juifs. Aux juifs et aux chrétiens, pardon. Alors, aux juifs, en fait, c'est simplement d'avoir refusé la prédication de Mahomet. Et surtout, son pouvoir politique. Ce matin, je vous ai raconté comment ça s'est terminé dans le sang. Hein. Avec les chrétiens, les choses ont été différentes. D'abord, à la Mecque, Mahomet s'est félicité de l'attitude des chrétiens envers les nouveaux monothéistes qui étaient les musulmans. D'après la tradition, ce n'est pas le Coran qui le dit, mais la tradition, Khadija, la première femme de Mahomet, aurait eu un parent, un cousin ou un oncle, on ne sait pas trop, qui était chrétien. Certains disent qu'il était moine, d'autres qu'il était évêque, à la Mecque. Mahomet, selon la tradition aussi, aurait rencontré un moine, adepte du docétisme, je vous ai dit ce matin, qui lui aurait prédit qu'il était appelé à un grand destin de la part de Dieu. À un moment donné aussi, oui d'ailleurs, ce moine-là, son nom est connu par la tradition, c'est Bahira, B-A-H-I-R-A. Si un jour vous allez en Syrie, actuellement c'est pas recommandé, mais dans le sud de la Syrie, il y a une grande ville que j'ai visitée il y a quelques années. C'est un grand site archéologique romain. La ville s'appelle Bosra, B-O-S-R-A. C'est juste à la frontière jordanienne. Et donc il y a ce grand site archéologique, des ruines romaines, hein, magnifique amphithéâtre, etc. Et on m'a montré une chapelle qui est encore debout, où aurait vécu ce moine Bahira, qui aurait reçu la visite de Mahomet lorsqu'il conduisait une caravane de la Mecque à Damas. Il se serait arrêté là, c'est sur la route en effet. Et c'est ce moine qui lui aurait prédit qu'il était envoyé par Dieu comme prophète. Alors avec les chrétiens, il y a eu encore des épisodes amicaux, si on peut dire oui. Quand ça a commencé à mal tourner pour Mahomet à la Mecque, il a envoyé certains de ses compagnons rendre visite en Éthiopie au Négus. Le Négus est l'empereur d'Éthiopie. Et ça, c'était dans les années 615, entre 615 et 619. Alors, dit-on, toujours la tradition, le négus d'Éthiopie, en voyant arriver ces musulmans qui parlaient en termes chaleureux de la Vierge Marie, enfin de Marie, dans le Coran, on ne dit jamais la Vierge Marie ni la Sainte Vierge, donc de Marie, eh bien, le négus aurait pensé que c'était des chrétiens, ces gens-là. Donc, il les a bien accueillis. Mais c'était une courte étape. Ensuite, en 619, il y a eu la première émigration de Mahomet à Taïf. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, dans une oasis du centre de l'Arabie. Et là, les chrétiens ont bien accueilli Mahomet, alors que les autres, les polythéistes de Taïf, lui lançaient des pierres, voulaient le tuer, etc. Les chrétiens l'ont nourri, l'ont bien accueilli. Alors, à ce moment-là, un verset amical pour les chrétiens est descendu. C'est je ne l'ai pas noté, je vais le chercher. C'est ce qu'on appelle le verset de l'amitié dans l'islam vis-à-vis des chrétiens. C'est dans la sourate 5, verset 82. Mais il faut que je vous fasse un petit commentaire là. Voilà. C'est Dieu qui parle à Mahomet, si vous voulez. Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux croyants musulmans, bien sûr, sont les juifs et les polythéistes. C'est déjà dur pour les juifs. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent « Oui, nous sommes chrétiens ». Et c'est là qu'il y a le verset sur les moines. « Parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil ». Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le verset de l'amitié. Alors on peut dire, bon, mais c'est bien, l'islam respecte les chrétiens, les honore, etc. Mais si on sépare ce verset du suivant, on n'est pas tout à fait dans la logique du Coran. Parce que le suivant, donc sourate 5, verset 83, explique pourquoi il faut regarder avec amitié les chrétiens. Encore une fois, on est à la période de la Mecque. Là, hein. Donc, tu constateras que les hommes les plus proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent « Oui, nous sommes chrétiens, parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. » Et le Coran ajoute « Tu vois leurs yeux, donc des chrétiens, tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. » Donc, en fait, vous avez compris, c'est très bien. Hein, donc l'amitié, elle est valable à condition que les chrétiens adhèrent à l'enseignement coranique. Approuve l'islam, donc. Voilà. Alors, par contre, alors à Médine, tout change avec les chrétiens, mais contrairement à la situation avec les juifs qui est beaucoup plus politique que religieuse. La rupture avec les chrétiens, elle a des motifs essentiellement doctrinaux. Par exemple, à Médine, Mahomet a reçu la visite des représentants d'une grande tribu chrétienne qui venait du Yémen actuel. Le Yémen, c'est le pays qui est à l'extrême sud de la péninsule arabe. Hein. Vous savez qu'il y a des conflits en ce moment aussi. Alors, ce sont les chrétiens dits de Najran. N-A-J-R-A-N. Donc ils sont venus en délégation voir ce Mahomet dont tout le monde parlait et qui était à Médine à ce moment-là. Alors la rencontre s'est plutôt bien passée. On dit que Mahomet leur a permis de prier aussi à ces chrétiens. Seulement après, il y a eu des disputes d'ordre doctrinal donc, avec ces chrétiens de Najran, et ces disputes, enfin ces divergences se sont étendues à tous les chrétiens. Donc, des divergences à propos de l'identité de Dieu, de la messianité de Jésus, de la crucifixion, comme je vous l'ai dit. Et puis aussi, le Coran constate les disputes qui avaient lieu entre les juifs et les chrétiens. Le Coran se fait l'écho de ces disputes. Il dit ceci, les factions se sont opposées entre elles. Les factions, ce sont les juifs et les chrétiens. Sourate 3, verset 19. Toujours pareil, à propos de l'identité de Dieu, de la messianité de Jésus, et là aussi de la virginité de Marie, puisque pour les juifs, ce n'est pas la même chose, de la crucifixion. Les factions se sont opposées entre elles. Donc, aucune des deux communautés n'était crédible aux yeux des musulmans. Alors, plus précisément, les griefs faits par les musulmans aux chrétiens. D'abord, bien sûr, leur foi en un Dieu trinitaire. Sourate 4, versets 170 à 175. Sourate 3, versets 55. Sourate 61, verset 14. Ensuite, deuxième grand grief, la divinisation de Jésus et de sa mère Marie. Donc, comme je vous l'ai dit ce matin, les musulmans croient que nous avons divinisé Jésus et que sa mère est une sorte de divinité associée au Dieu unique. Sourate 5, versets 110 à 120. Sourate 3, versets 33 à 66. Et sourate 5, versets 14 à 17. En outre, le Coran fait grief aux chrétiens de refuser d'admettre l'annonce par l'évangile de la venue de Mahomet. Sourate 61, verset 6. Le Coran dit que Jésus Aïssa apporte la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après Mahomet. Pardon, je me suis trompée, ce n'est pas le Coran, excusez-moi. C'est Mahomet qui, dans la tradition, dit que Jésus a apporté la bonne nouvelle, Mahomet dit, d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. Ahmed, c'est l'équivalent de Mahomet. Ça veut dire le loué, loué, quelqu'un qui est loué, quelqu'un à qui on rend hommage. Alors, il y a quelques années, j'ai découvert que le personnage qui est accusé, en fait, d'avoir falsifié l'évangile dans le christianisme, c'est saint Paul. Saint Paul, c'est le grand falsificateur aux yeux des musulmans. Tout ça, on le trouve dans les traités de doctrine coranique. Le grand falsificateur, puisque nous sommes accusés d'avoir falsifié nos écritures, donc l'évangile. Certains docteurs musulmans disent que saint Paul a été trompé, influencé par le pays où il est né, par la société où il est né, donc l'Asie mineure. Vous savez que saint Paul est né à Tarse, dans la Turquie actuelle, et qu'à l'époque, il y avait beaucoup de païens, des dizaines de divinités, Artémis et d'autres, et donc il aurait été influencé pour inventer la doctrine de la Trinité et la divinisation de Jésus, et on lui reproche aussi d'avoir lui-même créé l'Église, ce qui n'était pas prévu par l'Évangile selon, et par Jésus, selon les musulmans. Alors, les griefs contre les juifs et les chrétiens sont repris implicitement dans la première sourate du Coran, qui est courte, vous allez voir. Je l'ai là, oui. Ce qu'on appelle la Fatiha. Ça s'écrit F-A-T-I-H-A. Fatiha, ça veut dire ouverture. Voilà ce qu'il est dit. Ce sont les deux derniers versets. Il y a 8 versets seulement dans cette sourate. Alors, c'est le musulman qui parle, qui s'adresse à Dieu en ces termes. Conduis-nous dans la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Ce sont les musulmans. Et non par la voie de ceux qui encourent ta colère, ni celle des égarés. Ceux qui encourent la colère de Dieu, ce sont les juifs. Les égarés, ce sont les chrétiens qui se sont fourvoyés en inventant des doctrines, des théories comme la Trinité et la divinité du Christ et l'Église, etc. Voilà, donc ça c'est les derniers versets de la Fatiha, la sourate d'ouverture. Voyez, donc c'est des divergences extrêmement profondes qui laissent beaucoup de traces, hein, et qui ont bien sûr beaucoup d'importance dans nos relations avec le monde musulman. Il y a une incompréhension doctrinale très profonde entre nous, et c'est vrai que c'est difficile dans le dialogue d'évoquer ces questions-là, parce que en plus le Coran dit tout sur, enfin affirme tout dire sur le christianisme et le dire mieux que ne le font les chrétiens, puisqu'ils sont eux-mêmes accusés d'avoir falsifié leur écriture, si bien que nos évangiles, pour eux, je l'ai déjà dit ce matin, sont des livres falsifiés qui sont faux, que les musulmans ne sont pas invités à lire. Il y a même des pays où les musulmans n'ont pas le droit de se procurer la Bible, parce que bien sûr les juifs aussi sont capables de falsification. Mais le Coran ne dit rien sur le contenu des falsifications introduites par les juifs dans la Torah.